enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Le message d'aujourd'hui va s'appuyer sur trois textes fondamentalement. Genèse 3, à partir du verset 7.
Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : Où es-tu ? Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière.
Amen. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui nous allons parler du sous-développement. Réalisons ce que nous venons de lire. Dieu a créé les cieux et la terre. Dans le ciel, il n'y a pas de pays développés et de pays sous-développés. Dans le ciel, il n'y a pas de personnes développées et d'autres qui sont sous-développées. L'homme aussi a été créé dans une perfection. Il a été placé dans un contexte de perfection, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. Si chacun de nous, nous disons que, oh, ma vie, ma maison, c'est un jardin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ta maison, c'est le lieu où tu trouves vraiment toute la joie d'habiter, tout le confort, tout le désir, tout est là, c'est un jardin. Tu veux une tomate, la tomate est là. Tu veux un raisin, le raisin est là. Tu veux telle chose, tu veux de l'eau, il y a une source dans le jardin. Tu veux un peu de l'ombre, mais tout est là. C'est le lieu que tu veux habiter. Pourquoi tu veux être dans le jardin? Parce que tout est là. Tu n'es pas en train de galérer, tout est là. Donc, le jardin d'Éden, c'est le lieu dans lequel l'homme s'épanouit parfaitement. C'est un lieu en harmonie avec l'homme, avec ses désirs, avec ses aspirations. Tout ce que Dieu a mis en lui, ses besoins sont comblés par l'expression du jardin d'Éden. Donc Adam et Ève étaient placés dans un contexte de perfection où ils n'avaient pas à penser à quoi que ce soit. Ils ne pouvaient pas rêver d'autre chose. Ils ne pouvaient pas désirer autre chose parce qu'ils étaient dans l'épanouissement total à cause de l'harmonie de l'environnement avec ce qu'ils pouvaient désirer, ce qu'ils pouvaient penser, ce qu'ils voulaient manger, là où ils voulaient habiter. Tout cela était rassemblé, réuni par Dieu. Ils constataient tout simplement le grand bonheur dans lequel Dieu l'a placé. Le jardin d'Éden, c'était tout simplement la présence du royaume des cieux sur la terre, c'est-à-dire la perfection de Dieu exprimée en faveur de l'homme qui était son image sur la terre. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam? La mission qu'il avait donnée par rapport au jardin, par rapport au lieu où il était, c'était de garder le jardin. Garder. Mais comprenez par garder, protéger. Protège pourquoi? Parce que c'est vraiment le lieu où tu trouves ton bonheur. Nous protégeons quelque chose qui a de la valeur. Lorsque quelque chose n'a pas de valeur, bon, tu laisses là, on dit, on a pris, tu dis, oh, de toute façon, c'est bien, il me débarrasse de ça. Mais lorsque quelque chose est précieux, le Seigneur dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Mais voilà que maintenant, le serpent est arrivé pour pouvoir ruser l'homme. Parce que le jardin d'Éden étant de toute façon la présence de Dieu sur la terre, lui, il n'a pas de place là. Il ne peut rien faire. Pour n'avoir pas gardé le jardin, pour n'avoir pas veillé sur le jardin, ils ont mangé le fruit défendu. Et comme ils ont mangé le fruit défendu, ce que Dieu a dit est arrivé, ce que nous avons lu tout à l'heure, que le jour que tu vas en manger, certainement tu mourras. Tu deviendras poussière. Et ils ont mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, tout a changé. Tout a changé. C'est-à-dire, lorsque Dieu est descendu, toujours dans le jardin d'Éden, ils ne sont pas encore sortis, suivez-moi bien. Le même Dieu qui descend souvent, qui les trouve. Adam, oui, Père, Seigneur, je ne sais pas comment il répondait, mais tout allait bien. Mais maintenant, même dans le jardin d'Éden, les choses ont changé pour eux. Lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils sont allés se cacher. Ils ont découvert qu'ils sont nus. Mais je peux vous dire que si la Bible était là pour nous détailler tout ce que Adam était en train de dire, certainement, ça allait aller loin sur ce qu'il a dit. J'ai découvert ceci, j'ai découvert ceci, j'ai découvert ça, j'ai découvert ça, j'ai découvert ça. Certainement, ils ont découvert plein de choses. Ils ont découvert que non, ils ne sont plus, qu'on ne peut pas se présenter devant toi parce qu'on est nu, on n'a pas de vêtements. Ils ont découvert que, enfin, maintenant, on pensait que tout allait bien pour nous, mais maintenant, on a des problèmes. Maintenant, on a des problèmes. On croyait qu'on avait toute la nourriture qu'on voulait. Maintenant, on voit que, en fait, on n'a plus rien. Maintenant, on voit plein de choses. Plein de choses sont arrivées. Tout a changé. Dieu n'a pas changé. Le jardin de Dieu est toujours là, mais eux ont déjà changé. Ils ont déjà changé dans leur esprit, dans leur façon de voir, dans leur façon de parler, dans leur façon de se comporter. Ils ont déjà changé. Ils ne voient plus la même chose. Ils ne voient plus la gloire de Dieu de la même manière. Donc, le jardin d'Éden devient pour eux un lieu étrange. Un lieu qui ne correspond plus à leur position. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Si le jardin n'est plus l'endroit où vous sentez bien, parce que Dieu ne va pas ne pas venir dans le jardin d'Éden. Je vous ai dit que c'est la présence de Dieu sur la terre. Il va quand même être là où est sa présence. Mais puisque maintenant, vous ne pouvez plus être dans ma présence, puisque maintenant vous ne voyez plus les choses de la même manière, eh bien sortez. Sortez. Allez, il faut les mettre dehors. là où il y a un endroit qui correspond à votre mentalité. Un endroit qui correspond à vous. Allez-y, c'est dehors. Dehors du jardin. Et Dieu va leur expliquer cet endroit-là. Il va leur expliquer que désormais, regardez l'endroit dans lequel vous allez vivre. Par rapport à votre mentalité de pécheur, voici l'endroit que vous allez vivre. Nous avons lu tout à l'heure, il dit à la femme, « J'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Désormais, vous allez vivre et pour avoir vos enfants, ça va être chaud. Tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Désormais, là où vous allez vivre, la vie que vous allez mener, c'est une vie où non seulement que tu vas enfanter avec douleur, mais tu auras des désirs qui vont se porter vers ton mari. Mais sache que là-bas, il va dominer sur toi. Ce n'est plus comme ici, là. Adam, Ève, oui, chérie, tout ça. Vous avez la même pensée. Oh, j'ai mangé le fruit défendu. Toi aussi, tu prends. Oh, mais oui, chérie. Maintenant, il va dominer sur toi. Tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Là où tu vas là-bas, le sol est maudit. Et c'est à cause de toi. C'est ta force de peine, ta nourriture, tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, tu vas souffrir pour manger. Il produira des épines et des ronces. C'est-à-dire que tu seras confronté à des épines et des ronces. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras le pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tu vas souffrir pour vivre jusqu'à ce que tu redeviennes là où je t'ai tiré, c'est-à-dire poussière. Tu vas vivre dans la poussière et tu vas mourir dans la poussière. Alors, dites-moi, ce que je viens de lire là, n'est-ce pas le sous-développement? C'est le sous-développement. L'homme s'est tout à coup trouvé dans un contexte de sous-développement. C'est-à-dire que ses aspirations, ses désirs à être dans le bonheur, ses désirs à vivre une vie paisible ne sont plus accomplis dans l'environnement dans lequel il a été jeté, dans lequel il a été chassé. Il se retrouve maintenant dans un contexte de sous-développement. C'est là que les choses ont commencé. Voilà que maintenant, il doit transpirer pour manger. Et voilà que maintenant, il va être confronté à des épines, des ronces, c'est-à-dire que sa vie va connaître des maux, des situations difficiles. Le péché a plongé l'homme dans un état de sous-développement, de non-accomplissement. L'homme, désormais, est dans un non-accomplissement. Si vous voulez, donc, ce que nous appelons ici sous-développement, c'est le non-accomplissement. Et c'est quoi l'accomplissement ? L'accomplissement, c'est le fait d'être en harmonie entre tes aspirations les plus profondes avec ce que tu vis autour de toi. Ce que tu as réussi à faire. Tu dis que là, il y a un accomplissement. Lorsque Jésus est venu, il avait en lui l'aspiration, le désir de sauver les hommes par un sacrifice pur qui les libère. Et lorsqu'il est arrivé sur cette croix, il a dit « Tout est accompli. Tout est accompli. » Maintenant, j'ai fait ce qui était au fond de mon cœur. Donc, l'homme n'est plus dans un contexte où tout va bien pour lui. C'est là le sous-développement. Après, les hommes ont commencé à vivoter. Adam, avec son épouse, ont commencé à avoir des enfants. Caïn, Abel et les autres. Et puis, débrouillez-vous, certains par-ci, certains par-là. L'homme a commencé à se battre pour vivre. ils ont commencé à dire non, il faut que Dieu a dit il faut on va maintenant travailler. Si on veut retrouver la situation d'avant, mais on va travailler. Donc ils ont commencé à travailler. Mais ils travaillent pourquoi? Ils travaillent pour pouvoir retrouver des conditions de vie. Ils travaillent pour pouvoir se mettre dans des conditions qui correspondent à ce qu'ils pensent qui est bien. Ils ont commencé à se faire des vêtements, commencé à habiter dans des grottes. Et puis à un certain moment, on dit, mais oui, mais la grotte, elle est là, c'est de pierre, mais ce n'est pas forcément aussi l'endroit idéal, mais est-ce que peut-être qu'on peut faire une tente? Peut-être qu'ils ont commencé à travailler pour retrouver des conditions de vie dignes, des choses qui étaient là dans leur cœur. Certains se retrouvent par-ci, après plus longtemps, d'autres se retrouvent en Amérique, d'autres se retrouvent en Europe, en Afrique. Chacun était en train de se débrouiller dans des conditions de sous-développement. Certains peuples sont restés donc à l'état d'habiter dans des grottes plus longtemps que d'autres. Mais d'autres se sont dit, non, on n'est pas des animaux. Il faut qu'on avance. Et l'errance, les conditions difficiles, le froid, le chaud, a commencé à se manifester et chacun est confronté ou à son froid ou à son chaud. Il va falloir que tu trouves une solution. Il va falloir que tu te débrouilles pour pouvoir te mettre dans un contexte où tu vas dire, oh merci Seigneur. Merci, c'est-à-dire que Seigneur, vraiment tu m'as aidé. Désormais pour s'en sortir, il faut être travailleur. Ça veut dire que maintenant, j'étais placé dans un contexte de sous-développement à cause du péché. Parce que tu as choisi ce chemin, voici maintenant tu es là dans cette difficulté, dans cette souffrance. Les choses ne sont plus développées pour toi. Cette Bible a été développée pour moi. Donc je peux lire, il y a même des explications pour que je comprenne mieux. Quelqu'un a travaillé, il a expliqué pour que je comprenne. Le livre a été développé. Et chaque étape, on a développé la Bible pour que nous comprenions mieux. Ça a été développé pour moi. Mais maintenant, les conditions de vie de l'homme ne sont plus développées pour lui comme cela a été dans le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, Dieu a développé les choses pour lui. Il a dit, l'homme aimera manger cet arbre, il aimera être auprès d'un coup. Dieu a développé en fonction de l'homme. Et donc, nous assistons donc dans l'histoire des hommes, que les hommes ont été confrontés à leurs conditions de vie, mais ils ont en eux le désir de liberté, ils ont en eux le désir de vivre bien, ils ont en eux le désir de manger bien, ils ont en eux le désir de dormir bien. Donc, ils sont en train de lutter parce que Dieu ne leur a pas dit que voilà, je vous mets dans des conditions difficiles et vous ne pourriez pas faire quoi que ce soit. Il dit, vas-y, travaille. Peut-être qu'à force de transpirer, tu vas manger ton pain. Alors, lorsqu'ils ont crié, mais Dieu, là où tu nous as envoyé ici, il fait froid. Eh bien oui, je vous ai dit que là, il y aura des ronces, des épines, il fait froid. Alors tu vas faire quoi? Tu vas rester là les bras croisés et puis mourir de froid? Eh bien certainement, certains sont morts. Mais qui? Celui qui ne veut pas mourir, il fait quoi? Il va réagir, il va commencer à lutter pour se dire que non, mais le froid, comment je peux m'en protéger? Et il voit que mais je peux, ce bétail-là, je peux prendre sa peau. Et ils ont commencé à faire des choses. Ils ont commencé à chercher du feu pour pouvoir sortir du sous-développement qui les enveloppait. Et donc aujourd'hui, nous, au 21e siècle, nous pouvons constater l'état de développement ou de sous-développement. Donc nous pouvons aujourd'hui constater que les hommes ont créé des conditions de telle ou telle manière pour pouvoir vivre mieux, pour pouvoir vivre une vie qui correspond à ce qu'ils pensent qui est bien. Le développement est une réalité. Et comment il vient, ce développement? Bien sûr, l'Occident a été l'héritier, si vous voulez, de tous les efforts de développement que les peuples avaient entrepris, que ce soit des peuples africains, où ils sont venus en Égypte et ils ont vu que ce peuple avait développé aussi des conditions, des moyens pour pouvoir atteindre un certain standard de vie. Ils ont vu la géométrie, ils ont vu les mathématiques, ils sont venus, ils ont encore bien développé ces choses. Et aujourd'hui, le modèle occidental de développement, c'est le modèle qui s'impose. Dans nos pays, on se débat, mais on ne peut pas faire autrement. On est obligé d'essayer. Donc, on envoie des étudiants pour venir étudier de la médecine, pour pouvoir pratiquer cette médecine, pour aider tout le monde. Parce qu'on ne va pas maintenant continuer comme nos ancêtres a dit, bon, le guérisseur va guérir. Aujourd'hui, prenons un phénomène comme un fléau, comme le sida. Il y a des personnes, donc, qui sont frappées par ce virus qui reste inguérissable. Des personnes qui sont frappées par ce virus en Europe, en Amérique et en Afrique. Où est-ce que les personnes qui ont le sida meurent? Où est-ce qu'ils meurent le plus? C'est en Afrique. Pourquoi? À cause du sous-développement. Mais ceux qui sont en Europe où il y a le développement, on arrive à créer des conditions, créer des médicaments qui vont les aider, malgré que le poison est là, à pouvoir vivre, prolonger leur vie, et même, pour certains, vivre comme tout le monde. Parce que le développement les accompagne. Mais pour ceux qui sont dans le sous-développement, dans des conditions archaïques, eh bien c'est la mort. Nous voyons tous les documentaires. Des maladies qui ne tuent pas ici font des ravages là-bas. Si maintenant nous constatons que notre culte de gospel est affecté par la chaleur et que nous puissions nous retrouver pendant cet été, plus il fait chaud, et plus, nous constatons que les chrétiens, donc, ils vont rester chez eux. Alors que nous sommes là pour pouvoir conduire le troupeau de Dieu. Nous sommes là pour les attirer, les enseigner vers le Seigneur. Mais si nous voyons que le soleil pose problème, mais nous allons nous poser des questions. Sommes-nous développés? Est-ce que le soleil pose problème à tout le monde en France? Est-ce qu'en ce moment, toutes les personnes qui ont un culte en même temps que nous, ont un problème de soleil? Il y en a d'autres qui s'appuient sur le développement pour créer un cadre qui reste agréable. Donc il y a une climatisation, il y a tout ce qu'il faut. Donc personne ne va s'éloigner de Dieu sous prétexte qu'il fait très chaud. Ça veut dire que si on prend ne fût-ce que ce point-là déjà, de ce point de vue, nous sommes dans le sous-développement. Nous n'avons pas développé des conditions qui nous permettent d'évoluer dans des conditions climatiques meilleures. Mais si maintenant nous, qui sommes les responsables, si moi je me dis, moi qu'il fasse chaud ou froid, moi ça ne m'empêchera pas d'être dans la présence de Dieu. Qu'il fasse chaud ou froid, je mettrai ma cravate et je veux venir pour pouvoir glorifier le Seigneur. Mais est-ce qu'il suffit que toi, tu sentes les choses comme ça pour réussir la mission que Dieu t'a donnée? Et le peuple que Dieu veut attirer, nous sommes en France. Nous prions pour la France, pour que la France se convertisse. Et si maintenant Dieu nous envoie pour le réveil de la France, Et que maintenant, on a prié, on a jeûné, Dieu dit, bon, ben voilà, je dispose le cœur des Français. Et qu'ils arrivent, qu'ils se disent, ah, non, mais on est désolé, mais vous êtes dans le sous-développement. Parce que vos salles, il fait trop chaud. Il n'y a même pas un ventilateur. Non, on aime bien ce que vous dites, ça nous touche, mais là, trop, c'est trop. Certaines personnes vont même commencer à s'évanouir. Il faut appeler les pompiers. Vous allez vous-même constater que là, vous êtes dans un pays développé. Vous devez commencer à vous créer des conditions de développement. Le développement touche tous les domaines de la vie de l'homme. C'est-à-dire que c'est aller d'un état archaïque à un état élaboré, un état meilleur. Un état qui correspond à ce qu'on peut dire, ah oui, là c'est bien, là on a réussi, là on a créé des bonnes conditions, là on est dans des bonnes conditions. Lorsque nous nous disons que là, nous sommes dans des bonnes conditions, ça veut dire que nous avons créé des conditions, nous avons travaillé, nous avons développé et maintenant on se sent dans des bonnes conditions. Bonnes conditions pour quoi ? Pour évoluer, pour avancer, pour prêcher l'évangile, pour vivre, pour éduquer les enfants, pour des bonnes conditions qu'on s'est créées pour développer, pour pouvoir vivre. Et nous voyons dans le monde le développement qui poursuit son chemin. Les choses sont de plus en plus perfectionnées. Tout à l'heure, nous étions à Lyon. Nous sommes allés à Lyon quand ? Est-ce que c'est hier que nous sommes partis ? Non, nous sommes partis ce matin. Nous avons assisté au culte jusqu'à 13h, on était encore là-bas. Et nous sommes venus, on a pris le TGV et voici, nous sommes avec vous. Pourquoi ? Est-ce que si on était parti dans une machine à vapeur, est-ce qu'on serait arrivé ? On ne serait pas arrivé. Mais celui qui avait créé la machine à vapeur, c'était une grande révolution. C'était impensable. Là où les gens devaient marcher à pied ou à dos d'âne, je ne sais pas, pour prendre une semaine pour arriver à Lyon ou je ne sais pas où. Mais lui, il a créé quelque chose qui a fait un bond en avant. Et puis voilà, il pouvait maintenant quitter d'ici, arriver à Lyon, peut-être en une journée. Mais est-ce qu'on se dit, on a trouvé notre machine à vapeur. Et aujourd'hui, le TGV fait combien de temps pour arriver à Lyon ? 2 heures. C'est la poursuite du développement. Ils ont poursuivi le développement. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont créé des trains Courail, ça faisait 5 heures pour aller à Lyon. Mais c'était déjà un progrès fulgurant. Mais ceux qui cherchent le développement, ceux qui pensent que l'homme peut bénéficier de meilleures conditions pour développer son potentiel. Donc, eux, ils continuent à dire non, ça, c'est encore trop lentement. Alors, TGV maintenant, 300 km à l'heure. Dit oui. Là, on peut aller plus vite pour pouvoir travailler, faire des choses. Et pendant que c'est comme ça, d'autres sont déjà en train de dire, non, le TGV s'est dépassé maintenant. Donc, il y a une poursuite par rapport au développement. Le développement étant le fait de se créer les meilleures conditions pour manifester notre potentiel. C'est-à-dire des choses qu'on croit, mais lorsqu'on regarde la Lune, on se dit, mais pour pouvoir mieux comprendre la Terre, pour pouvoir faire telle chose, il serait bien d'aller explorer la Lune. Mais oui, peut-être que ça peut nous renseigner des choses. Et puisqu'on pense, puisque la pensée est là, cette pensée, certainement, elle est bien. Alors il commence à partager. Président, regarde, il y a telle chose. Ah oui, ça c'est une bonne pensée. Alors il faut qu'on se développe pour pouvoir y aller. Eh bien, on a commencé à faire des fusées. Et aujourd'hui, nous tous on voit, boum, ils sont partis, boum, ils reviennent. Ils ont poursuivi le développement. Se donner les moyens. Se donner les moyens pour vivre les choses qui sont en toi. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à être évangéliste, à être pasteur, à être je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu appelle les pasteurs, les évangélistes. Mais ceux qui ont commencé à évangéliser dans ce pays, où on dit, bon, ils sont beaux sur les montagnes, qui ont marché par-ci, par-là, pour quitter d'ici à Sarcelles ou à Pierrefitte, ils ont dû prendre une journée de marche, et ainsi de suite. Et les nombres d'âmes qu'ils ont gagnées, ben, par la grâce de Dieu, ils ont gagné je ne sais pas combien. Toi aussi, tu veux faire la même chose ? Toi, tu veux faire la même chose ? Si toi, tu veux, si tu penses que tu as un potentiel, si tu penses que tu peux gagner des millions d'âmes, eh bien, tu vas te développer. Tu vas te créer des conditions pour pouvoir atteindre un tel résultat, afin que Dieu voit que un évangéliste est capable d'atteindre 1 million d'âmes. Les Billy Graham et les autres. Pourquoi nous ? Pourquoi lorsque vous entendez que Billy Graham vient en France, vous commencez à vous agiter ? Pourquoi lorsque Benny Hinn vient en France, que la réunion soit à Cergy là-bas, et tout le monde court là, il n'y a plus de... C'est pas trop loin. Eh bien, tout le monde court. Partout, il va aller à Marseille. Il y en a qui paient les billets pour aller suivre Benny Hinn. Vous pensez que Benny Hinn a reçu un autre appel que ce que vous avez reçu ? Vous pensez qu'il a reçu forcément une autre onction que ce que vous avez reçu ? Il a reçu les mêmes choses que vous. Mais chez vous, les choses sont restées à l'état archaïque. Et lui, il a développé. C'est ça la différence. Allons-y lire. Luc 19.
Luc 19, verset 12. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a remporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles. « Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. »
Le premier, il s'est présenté avec 10 autres mines. C'est-à-dire qu'une mine a donné 10. Il a développé la mine. Mais comment tu développes la mine? C'est en te créant des conditions de développement. Lorsque Jésus parle de la banque, c'est quoi la banque? La banque, c'est un organisme qui crée les conditions du développement économique, du développement financier. C'est-à-dire que c'est un système qui te permet, tu mets ton argent, ça travaille, tu fais d'une certaine manière. Ce sont des conditions, la banque est capitale dans les affaires pour réussir. Si chacun devait prendre son argent, tu mets sous le lit, tu prends, bon, on ne sait pas ce qui devait arriver, mais les conditions de sécurité, les conditions de ceci sont créées par la banque. Donc, ceux qui sont des entrepreneurs, qui voulaient aller loin, ils se sont dit non, on ne peut pas continuer à garder l'argent comme nos ancêtres qui mettaient au bout de leur pagne ou de je ne sais pas quoi. Non, nous voulons avoir beaucoup d'argent. Donc, il faut créer des conditions de sécurité, des institutions, des personnes qui travaillent pour gérer notre argent. Parce que l'argent doit travailler. Avant donc, bon, chaque banque avait un petit système là où ils travaillent. Mais maintenant, les banques sont reliées partout dans le monde. Il faut que lorsque je ne dois pas me promener avec mon argent, mais si je me retrouve au Japon, je dois pouvoir tirer mon argent parce que je fais des affaires. Donc, on crée des conditions, des mécanismes pour pouvoir pomper le bénéfice. Donc voilà un qui est venu, Jésus, je t'apporte 10 mines. Tu m'as donné un ministère, tu m'as donné un ministère d'évangéliste. Voici par ce ministère, je l'ai développé, j'ai créé des réseaux, je me suis mis sur Internet, j'ai fait ceci, j'ai payé des campagnes de publicité, je suis passé dans telle télévision, j'ai fait telle chose et j'ai gagné tant, des milliers, j'ai gagné 10 000 âmes. Mis 10 000 âmes. L'autre est venu, j'en ai gagné 5 000. Et puis l'autre, voici ton ministère d'évangéliste, je n'ai pu rien faire. Et donc aujourd'hui, quel que soit qui nous sommes, que tu sois blanc ou noir, jaune ou rouge, quel que soit ce que tu es aujourd'hui même, que tu entends ce message, toi tu as besoin de comprendre une chose. Que si toi aussi tu veux rapporter 10 mines au Seigneur, tu vas commencer à te développer. Alors donc maintenant, lorsque toi tu vois ta situation, tu vois que tu habites en banlieue et que ce n'est pas vraiment les conditions que tu veux dire que ça c'est vraiment le développement. Pourquoi? Parce que tu vois ceux qui habitent dans le 16e. Tu dis, mais voilà les conditions que dignes pour un homme. Et donc, tu vas réaliser, mais qui t'a mis dans la banlieue? Hey, mais c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Ils m'ont mis là, ils m'ont mis dans cette prison de la banlieue. Ils ont fait ces choses. Une fois que tu as fini de faire ce constat, est-ce que tu peux constater le sous-développement qui est dans ta propre vie, dans tes pensées? Il y avait un homme d'État dans mon pays, le Congo, qui était à une époque un pays socialiste. Et un homme d'État qui disait, nous ne luttons pas contre le sous-développement, mais nous luttons contre les puissances qui ont engendré le sous-développement. Comprenez par là l'impérialisme. Et parmi ces pays impérialistes figurait la France. Donc, qui sont des puissances impérialistes qui ont introduit le sous-développement. Bon. Lorsque des personnes se retrouvent, les jeunes se retrouvent ici, en banlieue parisienne, dans des maisons dont on peut se demander, est-ce que ceux qui ont construit ces maisons voyaient des hommes dedans? Où ils pensaient que c'était du bétail qu'on allait mettre. Lorsque les jeunes se retrouvent là, effectivement, ils ne sont pas venus là par eux-mêmes. Ils se sont retrouvés, ils sont nés dans ce pays. Ils ont constaté que leurs parents n'habitent pas dans le 16e, mais c'est là qu'ils sont nés. Et au fur et à mesure, ils se rendent bien compte que c'est très difficile. Ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc après la colère monte et toutes ces choses, ils ne voient pas un horizon agréable. Ils ne pensent pas que leur vie va aboutir à un épanouissement. Ils aspirent à des choses, mais ces choses ne sont pas là. Les conditions dans lesquelles ils vivent sont des conditions qui sont là. Mais en France, tu n'es pas comme dans un pays, je ne sais pas, quelque part là-bas, où tu dis, bah, écoute, moi si je ne veux pas habiter ici, parce que c'est désertique, parce que c'est ceci, et je vais quitter ici. Je prends mes clics et mes claques, et puis je vais marcher jusqu'à trouver un endroit où il y a un courant d'eau, où la terre est plus fertile, et là je bâtirai ma maison. Mais ici on est en France. Tu ne peux pas te lever, aller bâtir ta maison n'importe où. Donc, forcément, les gens se retrouvent à un endroit, ils sont nés là, et ils ont du mal à en sortir quand ils voudraient même. Donc, ces personnes-là peuvent dire, comme cet homme d'État, que mais ce sous-développement a été introduit. Mes parents, on est allés les chercher au Mali pour venir travailler dans le métro. Et je suis né ici. Et je ne peux pas avancer. Mais qui a fait ça? Eh bien, c'est le gouvernement français. Donc, c'est le gouvernement français qui a créé ce truc-là pour moi et mes parents. Oui. Et quel avenir il pense pour moi? Il n'y a pas d'avenir. Donc, effectivement, tu vas te dire que non, il y a des puissances qui ont engendré le sous-développement, qui m'ont enfermé dans le sous-développement. Alors, qu'est-ce que les jeunes vont faire? Eh bien aussi, ils vont se lever pour dire, bon, ben, vous nous avez enfermés dans le sous-développement, eh bien, on va tout casser. On va tout casser. Comme ça, ben, tout le monde va se retrouver dans des conditions archaïques. On va tout casser. Donc, cet homme politique dont je parlais tout à l'heure pouvait se dire, hein, c'est ça que j'ai dit, on ne lutte pas contre le sous-développement, mais contre les puissances qui ont engendré le sous-développement. Mais une fois que tu as lutté contre ces puissances-là, une fois que tu as cassé, une fois que tu as fait, une fois que tu as fait toutes ces choses, mais il y a un point plus important. La façon déjà même que tu te manifestes, la façon déjà que tu agis, que tu réagis, est-ce que c'est une mentalité de développer? Est-ce que c'est déjà une mentalité de développer? Des fois, là on peut parler d'effectivement des banlieues dont la construction même pose problème. Mais prenons dans certains banlieues où on a bâti quand même des maisons pas mal, bien, qui n'ont pas de problème. Et dont le problème aujourd'hui c'est la dégradation. Mais qui? Mais pour comment une dégradation arrive? Elle arrive aussi par le fait de nous qui habitons dedans. Cela veut dire que si maintenant nous nous retrouvons ici, et que maintenant, on commence à tout dégrader. Donc, on va dire que oui, c'est vrai qu'ils sont en banlieue. C'est vrai que les conditions sont difficiles. mais il faut constater qu'ils ont le sous-développement en eux. Le sous-développement en eux. Lorsque, prenons l'exemple aussi de nos pays. Oui, oui, c'est la colonisation, c'est le colon. Il faut trouver une solution. La solution, c'est quoi? Il faut les mettre dehors pour que nous puissions nous-mêmes nous occuper de nos pays, que nous puissions nous développer nous aussi, parce que nous aussi, on veut être dans le développement. Eh bien, voilà, ok, bon gré, mal gré, bon, voici, vous gérez le pays. On commence à gérer le pays. 10 ans plus tard, on n'est pas plus avancé. 20 ans plus tard, on est en train de reculer par rapport à l'étape où on était. Dégradation, guerre par-ci, par-là. On va dire, mais oui, ils ont pillé. Oui, ils ont pillé. Mais voilà, tout à coup, on a trouvé le pétrole dans ton pays. Il y a le pétrole coule, donc l'argent rentre. L'argent rentre, donc tu peux faire les choses. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que la situation est catastrophique, de plus en plus archaïque. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceux qui ont crié contre ceux qui engendrent les sous-développements, ceux qui ont chassé les puissances qui engendrent le sous-développement, ont continué dans le sous-développement. Jusqu'au point où en Afrique, on a même parlé du développement du sous-développement. Développer le sous-développement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sur la terre, l'homme est le moteur de l'histoire. C'est le sujet numéro un sur la terre pour les choses. Donc ça veut dire que les acteurs qui se sont levés pour pouvoir maintenant conduire les pays vers le développement n'avaient pas discerné ou résolu le problème le plus important qui est le sous-développement qui est en eux. Le sous-développement mental, spirituel. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne reproduit que ce qui est en nous. Et comme nous avons vu dans Genèse, nous voyons que le sous-développement est rentré dans l'homme. Il est rentré dans l'homme par le péché. C'est très facile pour nous de faire l'amalgame. L'amalgame permet que finalement, on ne te voit pas toi, mais qu'on voit le mouvement que ça crée autour. On se met des amalgames, mais c'est pas notre faute, c'est pas si. Mais toi, est-ce que tu peux te lever devant Dieu pour dire que, Seigneur, la vie que je mène aujourd'hui, les conditions de ma vie, ce n'est pas ma faute. Oui, c'est ta faute. Nous sommes nous-mêmes, voyez, même là, on est ici au CRC. On est au CRC, nous faisons des choses, nous enseignons. Nous enseignons à ce que nous puissions être un ministère vraiment en France. C'est-à-dire qu'un ministère qui va profiter des avantages, des conditions techniques d'enseignement pour pouvoir installer un ministère ouvert à tout le monde, qui est capable de pouvoir gagner des mines pour Jésus. C'est ça que nous cherchons. Donc nous ne pouvons pas maintenant vouloir retrouver ici ou reproduire ici des façons d'être, des façons de faire qui sont pires même que là où on était dans des pays sous-développés. Ça, c'est la faute de qui? Mais lorsque Dieu a dit à Adam et Ève que maintenant vous êtes frappés de sous-développement, je vous jette, il y a des rances et toutes ces choses. Il a dit, écoute, transpire, tu vas manger du pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne transpires pas, eh bien tu vas même mourir de faim. Mais si maintenant tu travailles, ça veut dire que désormais, l'homme doit travailler, l'homme doit s'appliquer pour pouvoir, par le potentiel que Dieu a mis au-dedans de lui, s'affirmer sur la terre. Je dis bien, s'affirmer. S'affirmer, c'est le fait de développer autour de toi ce qu'il y a en dedans de toi. C'est ça, s'affirmer. C'est-à-dire que nous sommes ici en train de nous affirmer en tant que CRC. En tant qu'un ministère, nous avons reçu des ministères et nous voulons affirmer que nous sommes appelés pour conduire le peuple de Dieu vers la gloire de Dieu. Mais où est la gloire de Dieu? Les mines montrent que Jésus nous a tous donné la gloire, mais dans un état archaïque, dans un état primaire. C'est-à-dire que lorsque tu es là, tu es un grand serviteur de Dieu, un prophète, mais à l'état primaire. Ça veut dire que si tu ne te lèves pas pour développer, on ne saura même pas que tu es un grand prophète. C'est par rapport à ce que Dieu a dit dans Genèse. Tout ce que Dieu nous donne est à un état à développer. Personne aujourd'hui, sous prétexte d'être noir, d'être blanc, d'être jaune, d'être rouge, restez là les bras croisés comme celui qui a emmené la mine dans un tissu pour dire « je viens te donner ce qui est à toi ». Et puis maintenant dire « oui, je ne lutte pas contre le sous-développement, je lutte contre les puissances qui ont engendré le sous-développement ». Alors donc tu vas te retrouver dans des mouvements, oui, revendication de ceci, oui, telle chose. Tu es chaud dans ces choses, tu mets tout ton zèle, le fait d'aller jeter la pierre, le fait d'aller accuser un tel lorsqu'on accuse, là, ouais, c'est lui, tout ça. Mais une fois que tu as fini cette ambiance, tu rentres chez toi. Lorsque tu vas rentrer chez toi, que tu es là, tu commences à dire, ah Seigneur, vraiment, aide-moi Seigneur et tout. Le Seigneur va te prendre le livre de Proverbes, continue à te croiser les bras jusqu'à ce que la pauvreté puisse t'envelopper comme la teigne. Parce que tu ne comprends pas que même si tu es dans un système qui est oppressant, même si tu es dans un système difficile, mais Dieu attend que toi qui as reçu la mine, parmi les 10, toi que tu arrives à lui produire les 10 mines. Mais tous ceux qui ont reçu les mines habitaient le même pays. Ça veut dire que tu es là en France, il y a bien d'autres personnes qui sont comme toi. Si tu es noir, il y a d'autres noirs en France. Tu es blanc, il y a d'autres blancs en France. Tu es jaune, il y a d'autres jaunes. Tu es rouge, il y a d'autres rouges. Est-ce que tous les noirs vont arriver devant le Seigneur pour dire, Seigneur, nous tous, en fait, on n'a pas pu développer nos mines parce que regarde les conditions, regarde, nous tous, on est dans la même situation. Non, tu vas te retrouver tout à coup seul. Tu vas te retrouver seul. Tu te dis que, oh, vraiment, là, le Seigneur va comprendre que moi, en tant que noir, c'était vraiment difficile les conditions. Il va vraiment comprendre parce que lorsque je vais lui montrer, je n'ai pas pu développer. Lorsqu'il va voir tous ces noirs, il va dire que, ah oui, là, c'est la faute vraiment de, je ne sais pas si c'est des blancs, si c'est des rouges. Mais lorsque tu vas arriver, il dit, bon, maître, vraiment, je n'ai pas pu développer cette mine. Voilà, telle condition. Je te dis, le maître va commencer à dire, mais tenez-le, mais maître, mais ce n'est pas que moi. Regarde, lui aussi, tu vas voir, maître, tu vas voir. L'autre arrive, maître, voici. J'ai gagné 10 autres mines. Mais ah non, peut-être que c'était un noir américain. Non, j'étais bien à Sarcelles. C'est à Sarcelles. À Sarcelles que j'ai développé mes 10 mines. Même dans le ghetto, il y a du commerce. Même dans le ghetto, il y en a qui gagnent de l'argent. Même dans le ghetto. Il y a un problème. C'est l'homme qui est capable de changer les conditions de sa vie. Donc, même, regardez, maintenant, allons-y voir ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph avait reçu de Dieu un don puissant, mais à l'état primaire, comme une vision, quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Et il s'est retrouvé en prison, esclave et en prison. Exactement des conditions pour dire, Seigneur Jésus, toi-même tu vois, je ne peux rien. Je ne peux rien. Mais lorsqu'il était là dans cette prison, puisque ses mains ne peuvent pas vraiment travailler, qu'est-ce qu'il travaillait en prison? Hein? Il a fait pousser un arbre. Ça, c'est dans le dessin animé. Joseph a développé son esprit. Il a développé son esprit parce que personne ne peut limiter l'esprit. Personne ne peut barrer l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, même en prison, même dans les chaînes, il a développé son esprit de telle sorte qu'il était capable de regarder par les yeux de Dieu. Il était capable de parler par la bouche de Dieu. C'est une consécration. C'est une consécration. Il a développé son esprit de telle sorte que Dieu a vu que ça, c'est un esprit développé. Et donc, lorsque l'occasion s'est présentée et que ceux qui étaient soi-disant des sages, des magiciens, se sont retrouvés devant une énigme que Dieu a placée là pour leur montrer que vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes pas des sages, vous montrez le vrai sage qui a un esprit développé. Il a l'esprit de Dieu. Je vais vous le montrer. Et le pharaon se réveille troublé. J'ai fait un songe. Et j'ai fait un songe. Appelez les magiciens. Il faut qu'ils m'expliquent le songe que j'ai vu et que j'en comprenne. Parce que Dieu avait fait tellement que ça le tourmentait. Il savait que c'était quelque chose d'important pour son avenir et l'avenir de son peuple. Et c'est là que l'homme qui n'a pas resté les bras croisés en train de déprimer parce qu'il s'est retrouvé dans de mauvaises conditions, qui n'a pas dit « Seigneur, tu m'as mis dans la banlieue. Seigneur, moi je n'ai pas ceci. Seigneur, je suis vraiment ceci. Tu m'as donné une peau qui est vraiment un problème en France. Seigneur, moi je ne suis pas au milieu de ma famille. Si j'étais peut-être au Congo, peut-être que les choses seraient différentes. Seigneur, l'homme qui a développé son esprit, qui a invoqué le Seigneur au temps de la détresse, l'homme qui a compris que l'esprit de l'homme fait la différence, l'homme qui s'est préparé, que peut-être que l'Éternel a préparé pour moi un jour de liberté, l'homme qui a préparer le temps qui vient. L'homme qui n'est pas resté les bras croisés, il s'est levé devant Pharaon et il a dit, Pharaon, voici ce que tu as vu et je veux t'en donner l'explication. Voici, la famine va arriver sur ton pays en tant d'années. Voilà. Maintenant, tu sais ce qui va se passer. Est-ce que tu as la solution? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut gérer l'Égypte en des temps comme ça? Moi, j'ai dit ce qu'il fallait. Maintenant, si tu as besoin de moi, je suis là. Si tu n'as pas besoin de moi, renvoie-moi en prison. Mais en tout cas, je t'ai dit ce qui va se passer. Mais lorsque Pharaon s'est levé, il dit, oui, forcément, avec ce que j'ai vu. C'est ça, j'ai bien compris la vision. Mais maintenant, il me faut quelqu'un. Il me faut un premier ministre qui va sauver l'Égypte. Parce que j'aime mon pays. Je ne veux pas que l'Égypte souffre. Il faut que je trouve quelqu'un. Il a regardé parmi les sages. Déjà, les sages qui se sont disqualifiés. Il a regardé parmi les ministres, tous, ils ont baissé les yeux. Il a fait comme ça. Il a dit, il a cherché. Mais je dis, mais je n'ai personne comme toi. Tu es un esclave? Tu es hébreu, mais l'Égypte a besoin de toi. L'Égypte a besoin de toi. L'Égypte a besoin de toi. Là, nous sommes accablés. Nous sommes racistes. Nous n'aimons pas les Hébreux, mais nous aimons vivre. Et il n'y a que toi qui peux nous faire vivre. Il n'y a que toi qui peux nous faire vivre. Donc, voilà. Voilà la personne qui comprend que l'homme investit dans trois dimensions. Il y a un investissement physique, investissement spirituel, investissement sentimental. Et que tous ces aspects doivent être développés. L'homme doit être développé en lui-même pour développer son environnement. Regardez vous-même ceux qui ont fait de grandes découvertes. Ce sont des personnes qui se sont développées sur le plan déjà de leur intellect, des choses, ils ont pensé des choses, ils ont imaginé, ils ont dit. Et lorsqu'ils ont dit, écoutez, voici la chose que je veux faire, on a rigolé, dit, mais c'est pas possible, il est fou. Et puis après, c'est nous qui profitons de la folie. Vous avez entendu ce qui est arrivé à Gustave Eiffel. Lorsqu'il a dit non, mais vous voulez quelque chose pour votre, comment on appelle, le développement, je vous fais la tour Eiffel. Mais qu'est-ce qu'on l'a critiqué? Mais aujourd'hui, la tour Eiffel représente l'élément touristique qui rapporte le plus à la France. Le développement doit se déclencher en toi. Le développement doit se déclencher en toi. Je peux vous dire que si nous sommes dans la vérité, et qu'on commence maintenant à descendre dans nos banlieues, là où nous habitons dans des taudis, mais vous allez voir qu'il y a des différences. On va se dire que, mais d'accord, tu es dans la banlieue, d'accord, les murs ne sont pas beaux, d'accord, la cité n'est pas belle, mais qu'est-ce que la poubelle fait dans ta maison depuis 2 semaines? Là, ce sont les puissances qui t'ont empêché d'aller jeter la poubelle pour que tu sois au moins en bonne santé. Le sous-développement de notre façon de vivre, nous sommes coupables de ces choses. Coupables de négligence, de paresse, en train de se séduire. On veut lutter contre les puissances qui ont engendré le sous-développement. Mais comprends, la vraie puissance qui a engendré le sous-développement, c'est le péché. Le péché. Lorsqu'on reste les bras croisés, qu'on ne veut pas travailler comme tout le monde, après, on va crier que oui, c'est eux. Mais pourquoi tu ne travailles pas comme les autres? Ceux qui sont restés dans ton pays, ils veulent venir en France parce qu'ils se disent que là-bas, on peut trouver du travail. Et toi qui es en France, tu dis qu'il n'y a pas de travail? Il faut qu'on sorte de l'amalgame. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'au milieu de nous, qu'on commence à reconnaître ceux qui sont coupables de leurs propres péchés et ceux qui sont vraiment empêchés par les puissances, effectivement, qui ne veulent pas ton progrès. Nous voulons aujourd'hui prier pour des personnes. Lorsque Doris est là, Doris, si maintenant tu me démontres qu'il y a quelqu'un qui s'est levé contre toi parce que tu es haïtien, tu veux produire tout ton effort. Cette personne dit non, pas toi. Tu ne dois pas. Donc là, je veux comprendre que tu es développé en toi-même. Tu veux faire des choses. Tu veux avancer. Mais il y a vraiment quelqu'un qui t'en empêche. Si on écarte cette personne, certainement tu vas réussir. Là, je veux pouvoir prier pour que cette personne soit écartée. Mais si tu commences à m'expliquer que oui, tu sais, pour les Haïtiens, c'est pas facile, tout ça. Je vais aller te prendre un Haïtien qui avec son taxi, commence à s'acheter des bâtiments pour pouvoir faire louer des appartements à des gens. Il faut qu'on arrête maintenant la séduction, qu'on se regarde nous-mêmes. Parce que je peux vous dire que Dieu est un juste juge. Pourquoi tu es venu en France? Pourquoi? Qui a ouvert ton chemin? C'est Dieu. Qui a ouvert le chemin de Joseph pour aller en Égypte? Et par quel moyen il est allé là-bas? Par l'esclavage. Et l'esclavage est devenu celui qui a aidé sa famille. L'esclavage n'est pas une finalité. Elle peut représenter la méchanceté de l'homme vis-à-vis d'une autre personne. Mais pour celui qui comprend les choses de Dieu, pour celui qui sait que Dieu a mis en toi une puissance que personne ne peut arrêter, qui est ton esprit, ta capacité de cerner le chemin de Dieu, ça va être un passage pour toi vers des grandes choses. Vers des grandes choses. Mais vous pensez que maintenant Dieu ne voit pas l'injustice? Dieu voit exactement l'injustice auquel nous sommes confrontés les uns et les autres. Blanc, noir, rouge ou jaune. C'est-à-dire que Dieu voit les jeunes. Dieu regarde, il voit l'injustice auquel la jeunesse est confrontée. Mais lorsque Dieu se tourne vers la jeunesse pour délivrer les jeunes, est-ce que les jeunes sont capables maintenant d'avoir une mentalité de Joseph pour dire que non, nous n'allons pas devenir nous-mêmes, nous n'allons pas rentrer en confrontation. Nous n'allons pas passer maintenant le reste de notre vie à casser et à nous retrouver en prison. Mais nous allons commencer à invoquer le Seigneur. Nous allons commencer à créer nous aussi des entreprises, même dans le ghetto. Parce que je peux vous dire, lorsque je vois certains ghettos où se retrouvent par exemple des Congolais, ils se retrouvent là, ils reproduisent donc une vie comparable un peu à comment ils vivaient là-bas. Donc, dans ce ghetto-là, eh bien, on ne mange pas peut-être la cuisine française sophistiquée, gastronomique. Donc, ils veulent manger leur sakasaka, leur pondou, ils veulent manger leur Thompson, le poisson fumé, les madessous, tout ce que vous voulez. Ils veulent manger ces choses. Donc, ils se mettent là pour pouvoir manger ces choses. Mais comment manger ces choses? Et on tourne là, de temps en temps, on va en voyage, on amène un peu de ces choses-là pour essayer de les garder les mieux. Mais je peux te dire qu'un Chinois qui quitte là-bas, il arrive, il dit, ah bon, vous voulez manger le madeblo? Oui. Vous voulez manger le pondou? Oui. Vous voulez manger ceci? Oui. Laissez-moi vous fournir ça. Il va dans ton pays, il prend les choses que tu as besoin. Il arrive chez toi, il te le vend, il vend, il s'enrichit, il prend l'argent, il va développer la Chine. La Chine commence à devenir l'une des plus puissantes du monde. Et toi, tu es là, l'esclavage, la colonisation, c'est le péché du sous-développement, la mentalité de sous-développement. Lorsqu'on est là dans les banlieues, au lieu de réfléchir au développement, des choses qui vont nous faire avancer, on est là en train de pratiquer de la sorcellerie à longueur de journée, brûler de l'encens à des esprits impurs parce que tu veux être comme tes ancêtres. C'est le péché. Il faut sortir du péché. Vous allez voir que nous allons commencer à trouver le chemin. Prendre n'importe quoi, tu mets sur toi. Tu mets sur toi, tu veux être rasta. Sous prétexte que oui, c'est la philosophie de je ne sais pas quoi. Mais est-ce que ça va te faire avancer en France? Ou quel travail tu vas aller trouver avec tes locks? Il n'y a que dans le foot que tu peux faire une carrière. Mais pour ça, il va falloir que Dieu t'ait donné le ballon dans le pied. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut réfléchir avant de mettre des locks. Avant de prendre des bananes, mettre sur la tête. Il faut d'abord réfléchir à ce que tu veux faire. Et si tu choisis cette vie, ne te plains pas. Ne te plains pas. Parce que Dieu dit, mais réfléchis. Réfléchis à ce que tu veux faire. Dieu va te faire justice si quelqu'un t'oppresse. Dieu va renverser le méchant parce que le Seigneur dit, le juste possédera le pays. Mais l'insensé va faire quoi? Le sensé ne fait rien. Que le temps soit ceci ou là, le sensé est toujours en difficulté. Il ne peut pas tenir devant Dieu. Il est aveugle et il risque d'entraîner tout le monde à la catastrophe. Donc tu cries. Tu risques de mourir comme Lazare. Tu risques de mourir en prison. Parce que tu n'as pas développé ton esprit. Et lorsque Pharaon va chercher quelqu'un pour lui expliquer le songe, tu ne pourras pas. Tu arrives là. On a dit que toi, tu es chrétien, non? Oui. Que vous avez des visions, de Dieu vous parle, non? Oui. Alors dis-moi ce que Dieu m'a montré. Alléluia. 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 On continue à garder notre même ta vie de chrétien à l'état archaïque. Ta vie de chrétien à l'état archaïque. Il faut développer les mines que tu as reçues. Le Seigneur dit que les langues qui balbutient vont parler nettement. Net. C'est toi bien qui déclare lorsque tu es là, maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, ou tu es devenu riche. Ça veut dire que pour Dieu, le pauvre a vocation à devenir riche, et Dieu est d'accord que le pauvre devienne riche. Mais tu n'as pas dit comment. Mais là, il vient de nous dire, la sueur. Dieu n'est pas pour le sous-développement. Sinon, il n'aurait pas demandé 10 mines à celui qui en a reçu un. Dieu n'est pas, les hommes ne sont pas des animaux pour aller habiter dans des grottes, dans des cavernes. Donc, les hommes ont commencé à travailler. Et cette intelligence, c'est Dieu qui leur donne. Peut-être que des fois, lorsque tu rencontres un médecin, parce que pour toi, tu demandes, est-ce que tu es même chrétien? Oh, tu sais, vous les chrétiens, tout ça. Oh, ça, c'est les gens du monde. Mais c'est lui qui te guérit de ta maladie. Et je peux te dire que cette intelligence-là, c'est Dieu qui a donné. Lorsqu'on découvre des choses, pendant que tu es là, tu pries, Seigneur, donne-moi une voiture. Qui a développé la voiture? Tu es bien content. Oh, le Seigneur m'a béni. Mais le Seigneur t'a béni aussi au travers, même du fou qui a commencé à réfléchir, si l'homme pouvait avoir un moyen pour aller vite. Il t'a béni aussi au travers de lui. Parce que si lui n'avait pas créé cette voiture, tu n'aurais pas reçu cette voiture. Donc c'est pour ça que vous serez étonné dans le royaume de Dieu. Vous serez étonné de voir, celui-là aussi, eh bien lui aussi, il a fait augmenter l'humanité. Il a fait progresser l'humanité. Il t'a béni. Il t'a sorti du sous-développement. Il y a des personnes importantes qui ont fait avancer l'humanité. Vous croyez que Dieu veut voir les hommes dans la souffrance? Pas du tout. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Caïn. Ne te laisse pas dominer par le péché. Certainement, si tu fais bien, tu vas relever la tête. Certes, j'étais chassé du jardin d'Éden, mais j'ai mis quelque chose en toi. Il y a un potentiel. Mais je crois que tu vas te souvenir que tu es fait à l'image de Dieu, que Dieu est créateur. Toi aussi, tu vas recréer les conditions pour pouvoir être dans la bénédiction de l'Éternel, afin que tu bénisses l'Éternel. Je suis le Dieu qui crée l'adversité. Je suis aussi le Dieu qui bénit, qui transforme les malédictions en bénédictions. Or, nous sommes là, Dieu veut de notre développement, il nous encourage, mais le sous-développement est tellement incrusté. Moi, je peux vous dire que l'Esprit de Dieu travaille pour changer nos conditions de vie. Lorsque nous prions, Dieu entend. Je peux te dire que des fois, lorsque tu pries, Seigneur, fais que je rentre dans le feu de la prière. Là, nous voulons le réveil. Effectivement, tu vas voir, tu es rentré même en retard, tu as dormi, puisque tu as dit que tu voulais te lever le matin pour prier, ben, par miracle, le matin, pouf, l'Esprit t'a réveillé. Donc, ça veut dire que Dieu veut que t'aider à développer ta vie de prière. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est toi qui vas commencer à lui fausser compagnie. C'est toi qui vas commencer à faiblir. C'est toi qui vas commencer à repartir vers le sous-développement. C'est toi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous allons commencer à vouloir le développement? Est-ce que nous pensons que nous avons reçu une mine et que cette parabole nous parle à nous? C'est-à-dire que Dieu va t'appeler toi qui es en France. Il va appeler un autre qui est au Congo ou je ne sais pas dans quelle île. Et Dieu, c'est un Dieu d'équité. Il ne vous jugera pas de la même manière. Lorsque toi, tu vas apporter 10 000 âmes, il va voir dans le contexte de la France, c'est pas mal. Il va voir l'autre qui va apporter 100 personnes. Dans le contexte de son pays, il a cartonné. Donc, Dieu prend en compte les conditions dans lesquelles nous sommes. Donc, ça veut dire que maintenant, si le culte de gospel a un problème, parce que l'été, il fait trop chaud, donc les gens ne peuvent pas venir, nous allons répondre. Nous n'avons pas su créer des conditions que les païens créent tous les jours. Alors, nous démontrons par là que nous sommes nous-mêmes sous-développés et incapables de créer le développement. Il va falloir que nous puissions maintenant commencer à nous secouer. Dans notre quotidien, dans notre maison, il va falloir que Dieu voit que nous avons le souci du développement. Et je peux vous dire, cet homme, en parlant des puissances qui ont engendré le sous-développement, pensez donc aux puissances, l'Europe, l'Occident et tout ça. Je peux vous dire qu'il y a des vraies puissances qui ont engendré le sous-développement. C'est le péché par lequel les démons sont venus dans la vie de certains et qui maintiennent la vie de certaines personnes dans le sous-développement. Des traditions. Tu vas passer ta vie à aller sacrifier, je ne sais pas, à tel esprit. À quel moment tu vas développer ta vie? La nuit, au lieu de dormir, tu vas te faire des incantations. À quel moment tu vas te développer? Il y a des choses qui sont impures, qui tiennent ta vie dans le sous-développement. Tu ne sais même pas pourquoi tu portes des vêtements déchirés. Ce n'est pas que tu n'as pas de l'argent pour acheter, mais tu sens que tu aimes ça. Ce sont des puissances impures. Tu ne sais pas pourquoi tu vas mettre tes cheveux dans tel état. Tu ne sais pas pourquoi. Satan est venu pour introduire le sous-développement. Il y a des personnes, mais une mentalité, mais complètement sous-développée. Et il va falloir maintenant qu'on commence à se dire la vérité. Parce que nous sommes tous là, on est un peuple, on doit avancer. Dieu nous attend, les mines, il va falloir qu'on puisse... Voyez, par exemple, tout l'effort que nous pouvons faire ici, même dans le culte, pour pouvoir placer des standards qui correspondent au pays dans lequel nous sommes, comme l'accueil, comme la sécurité, comme le protocole. Mais il y a des personnes qui se disent, mais pourquoi on fait tout ça? On veut se faire voir, on veut faire ceci, cela. Mais toi, ce n'est pas le ministère de ton village. Je te le dis, c'est un ministère français. Nous sommes en France. Il va falloir qu'on sauve ce pays. Il va falloir qu'on accueille ce pays. Toi, tu veux garder ta mentalité de village? Eh bien, si tu veux aller au village, tu vas. Tout ça, c'est une mentalité qui ne correspond pas là où Dieu t'a placé. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Est-ce que le CERF, c'est un ministère congolais? C'est un ministère français. Moi, je suis venu ici, j'ai pris le billet d'avion, je suis venu. Donc, je pouvais bien faire un ministère au Congo si Dieu voulait un ministère congolais. Alors, lorsqu'on veut créer les standards, qui sont des choses reconnues, que tout le monde respecte, parce que nous voulons attirer les âmes au Seigneur, pourquoi nous voulons prendre des mentalités qui ne sont même pas justifiées pour vouloir maintenant dénigrer les choses que l'Esprit de Dieu nous montre pour que le ministère avance? Vous ne pensez pas que dans ce pays, même ceux qui habitent dans le 16e méritent d'être sauvés un jour? Vous ne pensez pas que le gouvernement français a besoin d'un jour de venir dans un culte où on prêche vraiment l'évangile? Vous allez le forcer à venir ici, là, dans cette chaleur? Vous allez le forcer à venir dans le ghetto? Pas du tout. Jésus, lorsqu'il voulait gagner des âmes, il faisait quoi? Est-ce qu'il restait là dans le temple, habillé en vêtements de sacrificateur, dit « bon, venez à moi », tout ça? Il allait exactement où étaient ces personnes-là. Il voulait aller les sauver. J'entends souvent mon épouse qui dit que c'est avec du miel qu'on attrape des mouches. Toi, tu vas peut-être prendre du vinaigre pour dire que je vais mettre du vinaigre comme ça, dès qu'il va, comme ça, le vinaigre, ça va directement le tuer. Donc, il sentira l'odeur, il fuira bien avant. Laisse-le d'abord s'attacher au miel. Après, tu lui dis, donne ta vie au Seigneur, mon gars. Toi aussi, deviens esclave de Jésus comme nous. Mais avant qu'il accepte de devenir comme Jésus, il doit admirer. Mais ils sont libres. Mais vraiment, ils sont développés. Ils sont épanouis. Ils ont la joie que nous n'avons pas. Mais vraiment, j'aimerais être comme eux. Après, il arrive, lui, on dit, we worship you. Oui, vas-y, danse. Vraiment, la joie du Seigneur, tout ça, tout ça. Après, on dit, bon, donne ton coup, on va mettre le joug de Christ. Mais vous ne pouvez pas rester là dans des conditions et croire que le fardeau que tu as, que le païen, lui, il va accepter de venir là, parce que tu es là, on arrive ici, Jésus, on souffre. Lorsqu'on veut louer, tu ne comprends pas pourquoi on doit louer. Dans le monde, les gens dépriment, ils ne veulent pas venir dans là où on va, on déprime encore. Ils veulent venir là où il y a quelque chose qui leur manque, c'est-à-dire la joie. Et la joie, comment tu vas l'avoir? Il faut la développer. Il faut développer la joie, tout ça. Lorsque nous créons des choses, c'est pour nous aider à développer la joie. Si tu n'as pas de louange dans ta vie, tu vas déprimer. C'est la réalité. Moindre chose, tu commences à déprimer. Mais si la louange est puissante dans ta vie, dans ta maison, mais la louange va t'aider à maintenir la joie du Seigneur. Là, tout ça, ça se développe. Je n'ai pas fini avec ce message. Parce que nous allons venir sur des points précis pour vous montrer qu'il y a des domaines de votre vie que vous avez enfouis sous la terre, qui sont des mines, des talents enfouis sous la terre. Les choses que tu ne sais pas comment, la solution que tu cherches, tu crois que ça va venir, je ne sais pas comment. Mais il y a des choses, la solution est déjà en toi. Et lorsque nous allons nous comparer avec nos frères chrétiens, qui dans le monde cartonnent, qui sont respectés, aux États-Unis, les chrétiens sont respectés. Qui va passer outre le point de vue des chrétiens? Ils représentent une puissance. Mais je peux vous dire que ce n'est pas seulement en termes de prier et jeûner. Prier et jeûner doit nous donner accès au développement, accès à la richesse, accès à des choses où les gens sont obligés, parce que le monde doit voir. Le Seigneur lui-même a dit, si vous ne croyez pas en moi, si vous ne discernez pas que je suis le Fils de Dieu, croyez à cause de ce que je fais. Nous devons produire les actes de salut, nous devons produire des choses qui montrent que nous avons une solution, même pour la nation. Il va arriver un moment que maintenant, une fois que la droite est passée, la gauche est droite, gauche, Sarkozy, un tel, tout, et que la situation de la France n'avance pas, il va falloir qu'à un certain moment, il faut trouver une solution. C'est pour ça qu'on est passé la Première République, la Deuxième, la Troisième, la Quatrième, on est dans la Cinquième République. Ça veut dire que maintenant, ils vont commencer à dire, oh, ça, on n'arrive plus. Mais il faut maintenant que les David se lèvent parce que Saül, maintenant, il n'arrive plus. Saül, les cas de Saül sont brûlés. Il va falloir que les David se lèvent. Les Goliaths sont là. Tu veux lutter contre les puissances qui ont engendré le soulèvement? Goliath est là, il règne sur le pays. Mais le petit David, les mêmes personnes, lorsqu'on l'a négligé, toi va garder les brebis. Il est en train de développer sa vie, développer. Il affronte des lions, des ours. Dans la banlieue, il y a plein de lions, des ours. C'est ça, c'est ces esprits-là qu'il faut affronter. Parce que l'heure de petit David va arriver. Parce qu'on va chercher qui peut terrasser Goliath. Qui peut terrasser Goliath? La France va finir par reconnaître, voir les vrais Goliaths. Dieu va révéler ceux qui oppressent ce pays. Voyez, il y a un moment où dans ce pays, on pouvait bien se moquer, par exemple, des Noirs, par exemple. Ah oui, mais attends, les Noirs, il faut qu'ils rentrent chez eux. Il se trouve que cette génération aime bien le football. Bon. Donc, on peut bien dire, on peut bien se moquer. Mais maintenant, une grande nation comme la France, jamais de Coupe du Monde, ça manque quelque chose. Eh bien, il va falloir que maintenant, on ait vu une vraie équipe. Alors maintenant, cherchez les bons joueurs. Ne cherchez pas par leur couleur, mais prenez, peu importe qui ils sont, on veut des bons joueurs capables de gagner la Coupe du Monde. Eh bien, c'est là que les Noirs, les Arabes, les Blancs, tout le monde mélangé, Black, Blanc, Beurre et tout ça mélangé. Eh bien, les gars, ils sont montés. Eh bien, voilà, ils nous ont gagné la Coupe du Monde. On était tous contents. Après, maintenant, on s'est dit, maintenant, ils sont vieux maintenant. Mais les gars, ils sont partis. Ils se sont réveillés, dit, écoutez, nous sommes les héros dans le foot de notre génération. Il va falloir, là, en France, ça commence à trop déprimer. Il va falloir qu'on... Et même qu'on a entendu des révélations que Jésus a commencé à se tourner doucement vers la France. Jésus aussi a vu que les jeunes, ils veulent se motiver, vous les Français. Désormais, vous êtes une nation qui compte, une nation qui gagne. La poire, c'est fini. Eh bien, les gars se sont levés. On se disait, bon, quand même, ils ont battu l'Espagne. Bon, ça se comprend, mais la Célestin, quand même, avec toutes les stars qui sont là. Mais les gars, ils sont rentrés. Les Zidane sont rentrés, les Thierry Henry, ils sont rentrés avec la motivation. On a même vu Ribéry avant le match, il est en train de prier. On a vu toutes ces choses. Et aujourd'hui, la Célestin est rentrée à la maison. Il y a un temps pour tout. Donc forcément, dans ton pays, on est obligé de comprendre que les Noirs, ça sert à quelque chose. Les Beurs, ça sert à quelque chose. Et si on veut devenir une nation puissante comme les États-Unis, il faut compter parce que Dieu a donné à chacun des dons. Ils ont reçu des choses. La France a besoin de tout ça mélanger. Et bien toi aussi, on va commencer à te reconnaître. On va commencer à t'aider. Maintenant, les jeunes se sont révoltés. Bien sûr, on a cassé dans dans la banlieue. Maintenant, on s'est dit, écoutez, si on ne veut plus ce genre de choses, il va falloir maintenant favoriser les hommes d'affaires qui sortent de banlieue pour que l'on voit qu'effectivement, il n'y a pas que les familles et ceci, mais eux aussi, pour que les autres jeunes voient qu'au lieu de se fâcher, nous aussi, eh bien maintenant, on fait passer aussi ces hommes d'affaires à la télé. Là où tu n'avais pas d'argent pour faire une petite publicité, maintenant, il y a une émission que tu dois venir pour que tu parles de ton entreprise. Publicité gratuite. Ces choses aussi viendront vers toi. Mais il faut que tu te prépares. Il y a un temps pour tout. Le temps de la justice de Dieu. Vous croyez que lorsque vous priez, comment Dieu fait pour renverser les choses? Il fait venir les choses. Il fait venir les choses. Nous ne voyons pas lorsque Dieu vient. Mais je veux vous dire qu'il vient de la façon dont vous n'attendez pas. Jésus avait dit aux Juifs, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les yeux. Le royaume de Dieu peut venir tout simplement par ce geste-là de Ribéry. Je ne sais pas qui il priait, comment il priait. Mais il a fait ça. Et la caméra a fait un focus dessus. Dieu arrive, mais il faut se lever. Lève-toi. Sur toi, l'Éternel se lève. Ta lumière apparaît. Toi aussi, tu vas être un Joseph. Toi aussi, non seulement que tu vas te développer, mais tu vas développer ta nation. Tu vas développer ta famille. Celui qui n'avance pas recule. Donc, là où Dieu t'a placé, si tu n'avances pas dans le domaine que Dieu t'a placé, tu vas être dépassé et ta place sera donnée à un autre. Je vous le dis. Donc, quelle que soit l'équipe où on t'a placé, tu dois savoir que tu dois te développer. Parce que Dieu veut le développement. Il faut avancer. Il faut avancer. Est-ce que Dieu va vouloir que maintenant, lorsqu'on veut voir les arriérés, c'est son peuple? Mais non. Vous serez la tête et non la... que vous serez en haut et non en bas. Qui est en bas? Sinon que ceux qui rejoignent la poussière trop vite. Tu retourneras la poussière. Seigneur, je ne peux pas travailler en France, je ne peux pas gagner mon pain, laisse-moi retourner à la poussière. Non, il faut refuser la poussière à un certain moment. Tu dis, Seigneur, tu m'as donné des mines, je dois t'en gagner 10 autres. Parce que tu es un bon roi. Je veux t'en gagner. Et nous devons gagner. Je voulais terminer avec quelque chose. Satan, prenons, nous mangeons tous les jours, non? Qui ici n'aime pas bien manger un bon plat? Bon. Lorsque je parlais parfois des traditions dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, si moi je dis que j'aime manger le sakasaka, mais avant moi, mes ancêtres ont mangé le sakasaka. Mais quel genre de sakasaka ils ont mangé? Est-ce que je suis obligé de manger le sakasaka de cette manière-là? Tu aimes les haricots rouges? Est-ce que tu es obligé de manger les haricots rouges de la manière que tes ancêtres ont mangé? Eux, ils avaient mangé parce que peut-être qu'ils n'avaient pas telle chose, ils n'avaient pas d'huile, ils n'avaient pas ceci. Donc ils font selon les moyens qu'ils avaient. Mais comment on peut se retrouver parfois du point de vue des conceptions traditionnelles à ne pas vouloir bouger la recette? Pourquoi on veut faire le haricot rouge exactement comme la grand-mère a fait? Pourquoi on veut faire le sakasaka exactement comme la grand-mère a fait? Mais en France, quels sont les restaurants qui gagnent le plus d'argent? Les restaurants gastronomiques. Ça veut dire quoi? Cuisine développée et raffinée. Toi, tu veux faire ton restaurant? Les recettes grand-mère. Mais moi, lorsque je mange même les biscuits d'Agnès, je vois que, tu vois, elle travaille. Je vois qu'elle développe. Donc, les mêmes biscuits mangés par ceux qui étaient à l'époque des grand-mères lorsqu'ils vont les manger, mais vous avez découvert quelque chose. Il faut développer les choses. Il faut développer. Voilà parfois des choses qui nous prennent du temps dans les vieilles choses. Il faut qu'on accepte le développement. Tout simplement des petits exemples pour vous montrer que là, je vous parle maintenant des puissances d'envoûtement. Je vous dis que je n'ai pas terminé. Je vais développer. On va arriver sur des points où tu vas commencer à te rendre compte que, ah bon, moi-même, je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça. Alors, tu vas commencer à dégager ta vie de ces choses. Dégager ta vie parce qu'il y a un grand potentiel en toi. Il y a un grand potentiel. Si on pouvait vivre du potentiel, mais tout le monde ici serait riche, développé. Mais or, le potentiel, tu ne peux pas en vivre, mais tu peux le développer pour atteindre des choses qui vont te profiter. Un potentiel, c'est quelque chose, un don donné à l'état archaïque. Si tu prends conscience, si tu le développes, eh bien, tu atteins l'épanouissement, l'accomplissement. Je vais s'y mettre.